Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ce matin jusqu'à 9h, bien entendu. Et on poursuit, comme je le disais tout à l'heure, ces regards en route vers les élections municipales. Question de voir un peu quels sont les différents enjeux, quels seront les différents dossiers qui risquent bien d'être débattus, d'être discutés entre nos élus et entre population et potentiels élus. Alors ce matin, on va s'intéresser à la thématique des transports. Notamment, on va discuter du vélo, comment organiser le circuit cyclable de Québec pour en faire un circuit peut-être un peu plus utilitaire. On va en discuter avec Jeanne Robin de Promo Vélo et Julienne Normand de Vélocentrix. Également, on va jaser avec Marco Viviani de l'organisme Communauto pour voir comment le municipal peut avoir un impact sur le développement de l'autopartage, un développement qui se fait à long terme. On y reviendra. Et au fil de la prochaine demi-heure, on va s'intéresser au transport en commun, voir un peu comment on pourrait développer ce réseau à Québec. Alors, en deux temps, dans un premier temps, on va parler avec Xavier Mercier Mété de l'organisme Accès Transport Viable. Et dans un deuxième temps, on va aller rejoindre notre collaborateur Dominique Talbot, qui est passé à Bordeaux là, tout récemment, qui est toujours sur le continent européen et asiatique, et qui nous fera un petit parallèle entre la ville de Québec et celle de Bordeaux. Mais pour commencer, on va dresser un peu le portrait de situation du transport en commun à Québec et les pistes de solutions envisageables. Donc, comme je disais, Xavier Mercier Mété d'Accès Transport Viable est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ah, mais si justement on dresse cet état des lieux, le transport en commun à Québec, jusqu'à présent, est-ce qu'on a un bilan qui serait plus positif, plus négatif?
Tout dépend toujours à qui on se compare, en fait. Si on se compare à certaines villes américaines où on peut juste utiliser la voiture, ben le bilan de Québec est pas si négatif. Toutefois, si on se compare aux bons élèves, entre guillemets, ben là, la situation est beaucoup plus, disons, douteuse par rapport à d'autres régions. En tant que tel, dans tous les déplacements qui s'effectuent dans la ville de Québec, il y en a environ 1/10 qui est fait en transport en commun, puis c'est environ 7/10 qui sont faits en voiture. Donc, on voit que la voiture domine passablement la situation. Puis évidemment, tout ce portrait-là change dépendamment des secteurs où on habite, dans quel coin de la ville. Donc, il y a beaucoup à faire si on veut devenir un premier de classe, mais si on se contente de rester où on est, puis de dire, bof, à quoi bon développer notre ville dans un autre sens, on n'est pas, on n'est pas les pires des pires des pires.
Et quand on parle de développement de transport en commun, j'ai l'impression que le principal défi, il y a justement cette omniprésence de l'automobile-là, une omniprésence qui est un peu justifiée par peut-être un peu l'excès, j'aurais presque envie de dire, l'excès d'autoroutes qu'on a dans la ville de Québec. J'avais lu à quelque part, je pense que c'était 21 km par 100 000 habitants, ce qui est absolument énorme, selon moi.
Exact, oui. C'est un des ratios les plus élevés au Canada, voire au monde. En fait, quand on s'est mis à construire des autoroutes au Québec, on a beaucoup aimé la formule, puis on a peut-être un peu exagéré à l'époque dans notre capacité autoroutière. Les planificateurs qui faisaient ça dans les années 60-70 prévoyaient que la ville de Québec aurait quelque chose comme 1 500 000 habitants, donc avec des prévisions démographiques très très enthousiaste, avec une idée qui était basée juste absolument sur l'usage de la voiture et tout ça, le développement de banlieue. Donc, on a beaucoup fait ça. La place de l'automobile est très importante. Puis, ce qu'on réalise quand on observe le monde des transports, c'est que quand on donne la capacité de se déplacer, les gens vont l'utiliser. C'est-à-dire, si on rajoute une autoroute, en général, l'autoroute va être utilisée par les gens, peu importe si elle répond ou non à un besoin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus l'offre qui va conditionner la demande jusqu'à un certain point de transport que tout simplement les besoins des gens, les besoins naturels au départ. Donc, plus on met d'autoroutes, comme on a fait à Québec, plus les gens vont dire « Ah, mais c'est merveilleux en voiture, je peux me déplacer pour aller à mon travail, aller porter mes enfants au hockey, aller voir mes spectacles. » Donc, les gens vont prendre la voiture, vont utiliser l'autoroute beaucoup plus et vont créer des déplacements, vont les allonger. Donc, c'est sûr que ce qu'on a fait à Québec dans le développement, ça a facilité beaucoup l'usage de la voiture comme on le connaît maintenant.
Et de toute évidence, en fait, plus on utilise l'auto, j'imagine que ça a des conséquences écologiques. Donc, c'est une situation, en fait, face à laquelle on devrait avoir quelques préoccupations, quelques inquiétudes.
Oui, au niveau écologique, c'est certain. On peut pas passer sous silence les changements climatiques, le smog, la pollution urbaine, le bruit, etc. Mais aussi pour des raisons économiques, c'est très important. Parce que tout ce réseau d'autoroutes-là, c'est un réseau qui coûte excessivement cher. On le voit avec les réfections maintenant, les structures qui sont un peu en décrépitude, qu'il faut tout refaire de ce grand réseau-là qu'on a créé dans les années 60-70. À Montréal, il y a le coffre frappant de l'échangeur Turcot qui va coûter 1 milliard dollars 500 000, mais à Québec, on en parle un peu moins, mais la simple réfection de l'échangeur Charest-Robert Bourassa va coûter autour de 250 millions d'après les plans initiaux. Donc, c'est très cher payé quand même comme solution. Puis aussi, ça a un coût très élevé individuellement, le choix de la voiture et collectivement. Donc, oui, il y a plusieurs conséquences qui portent à réflexion dans l'usage exclusif de la voiture. C'est pour ça que nous, on croit qu'il est vraiment important de rééquilibrer les modes de transport pour utiliser des modes beaucoup plus... les Français ont une expression un peu drôle. Ils parlent de mode doux, des fois. Donc, en parlant du transport collectif, des transports actifs et tout ça. Donc, nous, on croit qu'il est très important de rééquilibrer les modes pour les questions environnementales, économiques et même sociales.
Et comme on disait tout à l'heure, veut pas, présentement, les gens ont un choix et l'auto semble remporter la faveur populaire largement pour, question de liberté, possibilité, individualité, etc. Dans ce contexte-là, comment on arriverait et comment aussi, au niveau municipal, on peut aider à convaincre un peu les gens de se dire, OK, je vais peut-être essayer de changer mes habitudes, je vais peut-être essayer de prendre l'autobus, essayer de prendre le vélo à la limite aussi, mais si on axe sur le transport en commun, comment on fait pour encourager les gens à changer leur manière de se déplacer?
Oui, évidemment, on n'est pas dans un pays où on peut forcer les gens à changer de mode de transport, donc il faut leur donner la possibilité de le faire. Puis pour le faire, il faut leur offrir quelque chose d'attrayant, hein. On peut pas dire à quelqu'un, laissez votre voiture à la maison, puis prenez un service d'autobus plus ou moins fiable, ou prenez ou utilisez votre vélo dans des conditions qui sont pas adéquates. Donc, c'est vraiment, il faut offrir, donc il faut développer une offre, un peu comme les autoroutes. On disait que développer l'offre d'autoroute a facilité l'usage de la voiture. C'est la même chose pour le transport collectif en général. Quand on installe une nouvelle ligne de métro, une nouvelle ligne de tramway, etc., les gens le prennent en général, le train de banlieue. Puis ça, on a qu'à penser, il y a des exemples tout près de nous. Souvent, on dit, c'est deux exemples, d'ailleurs, ça marche pas. Mais tout près de nous, à Laval, le nouveau métro de Laval est utilisé au-delà des espérances. Même aux États-Unis, le pays de la voiture, quand on installe des systèmes légers sur rail, des tramways, littéralement, c'est souvent utilisé au-delà des espérances des promoteurs. Donc, oui, il y a moyen, mais il faut offrir quelque chose. Et c'est là que la ville entre en jeu. C'est vraiment clairement dans les responsabilités municipales, le transport collectif. C'est elle qui planifie le développement urbain. C'est elle qui gère la plupart du réseau routier dans les villes, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Mais c'est vraiment la ville qui a le rôle d'impulsion. Donc, à cet égard-là, c'est elle qu'il faut qu'ils disent on veut que nos citoyens changent de cap, donc on va leur offrir quelque chose d'intéressant, on va leur offrir un réseau attrayant, donc moderne, de qualité, fiable, etc.
Et justement, comment on pourrait prendre le réseau du RTC présentement, à la limite, en fait, si on jette un clin d'œil à Lévis aussi, le réseau Interrive, et comment on peut le rendre justement attrayant, intéressant?
Il y a déjà des bons points pour le réseau du RTC. Il faut quand même leur donner ça. Ils ont fait beaucoup de travail dans les dernières années pour essayer de se moderniser. À Lévis, ça commence aussi. Il y a plusieurs initiatives qui sont menées, mais quand on parle de modernisation, il y a toujours les autobus articulés qu'on attend pour offrir un plus grand confort, pour éviter la saturation des autobus. Il y a des lignes très fortes qui existent déjà, comme les métrobus, et il y a d'autres parcours métrobus qui vont être en création. Bon, c'est un premier pas, mais maintenant, il faut offrir une capacité plus grande et surtout offrir des modes de transport plus fiables. Et ça passe par des... c'est un terme technique, c'est des transports en site propre, donc qui ont leur propre voie, leur propre emprise et qui peuvent rouler de façon performante. Parce qu'à travers le trafic, un transport collectif peut jamais être aussi performant que s'il a sa propre voie. Hein, le transport qu'on voit souvent comme le plus efficace, c'est le métro ou le train de banlieue, mais c'est justement parce qu'il roule sur sa propre voie et qu'il n'a pas à arrêter à toutes les lumières rouges et dans le trafic dès qu'il y a du trafic. Donc, c'est un peu vers ça qu'il faut aller, d'après nous, sur les axes centraux, puis après ça, faire un système de transport bien pensé à l'échelle de la région, c'est-à-dire qu'il y a un lien efficace entre la rive nord et la rive sud. Là, il y a discussion d'un pôle d'échange interrive depuis un certain temps, mais il faut le réaliser justement. Nous, on va plus loin. Nous, on pense que le mode de transport idéal pour la taille de Québec, côté coût, côté bénéfice, côté capacité, ce serait un tramway ou un système léger sur rail, et qu'il devrait se prolonger jusqu'à la tête des ponts, idéal sur la rive sud pour permettre un transfert facile vers le boulevard Laurier, l'université et les grands secteurs là, de la rive nord.
Et face à l'idée d'un tramway comme ça, ça fait un bout de temps que c'est débattu et même récemment, il y a des députés municipaux, des conseillers municipaux qui sont dans les banlieues de première, deuxième, troisième couronne qui disent « Regardez, ça nous fait plaisir que vous discutez de tramway, mais ça ne concerne que le centre-ville, ce dossier-là ». De toute évidence, en fait, ça semble pas être le cas. Qu'est-ce que serait l'avantage, justement, d'implanter, par exemple, un tramway vers le centre-ville jusqu'à la tête des ponts? Et est-ce que ça aurait une incidence sur le service de transport en commun, par exemple, dans les banlieues de première, deuxième, troisième couronne?
Oui, bien sûr. Ce projet-là, on le présente des fois comme un projet de centre-ville, mais c'est pas du tout le cas. Au centre-ville, à Québec, il y a beaucoup de lignes d'autobus, beaucoup de parcours. C'est très facile de se déplacer, même en marchant, à la limite. C'est vraiment un projet pour les premières couronnes de banlieue et, à la limite, les deuxièmes, le tramway à Québec. Donc, je dis pas que ça va aller jusqu'à Val-Bélair, mais ça va avoir des impacts positifs assez loin. D'une part, un réseau de transport, il faut le voir un peu comme un réseau d'aqueduc, c'est-à-dire que tous les tuyaux peuvent pas être de la même grosseur. Ça en prend des plus gros dans certaines zones parce qu'évidemment, il y aura pas assez de débit et de pression. Puis là où il y a le plus de gens qui se déplacent à l'heure actuelle, c'est sur les corridors métrobus et ça commence à être très dur à gérer avec des simples autobus. On les voit souvent passer à la queue leu-leu, le premier plein, le deuxième pas mal plein, puis le troisième un peu vide. Donc, c'est qu'il y a un problème de capacité. Donc, le tramway, là, viendrait jouer un rôle sur la colonne centrale, où il y a le plus de gens qui se déplacent. On parle de 45 000 personnes par jour, à peu près, dans les métrobus 800-801. Donc, c'est beaucoup de gens. Puis ça pose des problèmes de fiabilité à ce moment-là. Donc, le tramway permettrait de venir solutionner là, ça au cœur du réseau, puis de faciliter après ça le rabattement sur ça. C'est-à-dire que si on arrive d'un parcours qui part de Le Bourgneuf ou des Saules, puis qu'on arrive sur la ligne de tramway après ça pour aller sur le boulevard Laurier, ben ça va être beaucoup plus facile d'entrer. On va avoir, dans le fond, un service plus fiable, plus rapide, de meilleure qualité, pour se rendre où on veut après ça à destination dans les endroits centraux. Puis même chose pour la tête des ponts, c'est-à-dire que les gens de Lévis pourraient venir laisser leur voiture dans un stationnement incitatif, facilement embarquer dans un tramway, puis traverser. Faut changer un peu l'idée qu'on a du vieux tramway qui fait ding-ding, bring-ballant sur ses rails là des années 50. Il y en avait à Québec avant, on les a enlevés. Mais les tramways actuels, c'est beaucoup plus des métros légers, des métros de surface à la limite, que des objets touristiques ou des petits trains qui vont lentement. C'est-à-dire que c'est efficace, il y a plusieurs portes, il y a des quais. C'est vraiment un mode de transport performant. Puis on sait que chez les politiques, bon, souvent il y a un peu d'incompréhension par rapport à ce que c'est. C'est assez technique, c'est assez compliqué à comprendre quand on connaît pas les dossiers, mais il faut s'ouvrir puis il faut voir justement que ça profite à l'ensemble de la ville, ne serait-ce après ça que par la réutilisation des autobus qui sont utilisés à l'heure actuelle sur les métrobus, c'est beaucoup d'autobus ailleurs dans la ville pour donner un meilleur service en périphérie ou sur d'autres lignes. Donc, ça peut être avantageux pour tout le monde, en fait.
Et face au tramway, j'imagine que le projet est encore en discussion. Qu'est-ce qu'on demanderait, par exemple, en route vers la campagne électorale par rapport à ce dossier-là, cette option-là?
Ben, en fait, le tramway, c'est davantage un moyen d'arriver à donner un meilleur service de transport en commun qu'un enjeu. Ça peut pas vraiment devenir facilement le dada d'une personne. Donc, en route vers la campagne électorale, je crois qu'il faut vraiment demander aux élus de prendre une position forte en faveur du transport collectif, quitte à justement retirer un tout petit peu d'espace à la voiture dans certains endroits stratégiques. Puis cette position forte-là, ben pour l'appliquer, pour qu'il y ait plus de gens qui utilisent le transport collectif à Québec, pour qu'il y ait moins de voitures au centre-ville, ben à quelque part, ça va nous prendre des moyens. Puis quels sont les meilleurs moyens? Nous, on pense que le tramway va inévitablement ressurgir dans les réflexions. Il y a des gens qui réfléchissent à l'heure actuelle à la ville sur ça. Il y a un comité qui a été créé. Donc, les élus peuvent en être informés, tout ça, de ces réflexions-là. Donc, c'est vraiment prendre position pour ça, puis dire le transport collectif est important pour le développement de notre ville. Si on pense à des grandes villes dans le monde, qu'on pense à Montréal, New York, Toronto, Londres, on peut pas les imaginer, en tout cas imaginer leur centre et les parties les plus importantes sans transport collectif. C'est-à-dire Montréal, sans métro, il faudrait détruire la moitié des édifices pour faire des stationnements, ça aurait pas d'allure. Même chose pour New York. New York serait jamais devenue ce qu'elle est si elle avait pas commencé à creuser son métro déjà à la fin des années 1800, début des années 1900. Donc, c'est un pas normal dans l'évolution d'une ville de faire du transport collectif. Puis nous, on pense qu'on en est rendu là à Québec et que c'est le temps que les élus saisissent l'occasion.
Et surtout quand on parle, dans le fond, de cette idée de densifier le centre-ville, eh bien, faut améliorer la capacité de se rendre au centre-ville d'un peu partout, dans le fond, dans la ville de Québec, en fin de compte.
Exactement. Si on veut densifier, amener plus de gens, intensifier les activités économiques, faire plus de bureaux, plus de commerces, eh bien, c'est bien beau, mais il faut avant tout que les gens puissent y avoir accès facilement. Si les gens doivent faire face à de la congestion pour y aller ou être pris dans le trafic, ben l'activité économique va s'étouffer d'elle-même. Donc, il faut vraiment donner plus d'oxygène à tous les secteurs centraux, que ce soit le boulevard Laurier, que ce soit le centre-ville, que ce soit aussi le secteur de Bourgneuf, qui en ce moment est très est accessible à peu près uniquement par voiture ou par certains circuits d'autobus. Donc, c'est pas une desserte idéale. Mais à certains points, toute l'activité de ces secteurs-là risque de s'étouffer elle-même si on ne donne pas un accès facile aux gens. Mmh. Et c'est là que le transport collectif intervient. C'est le mode le plus efficace pour transporter beaucoup de gens dans vers une direction donnée.
Et quand on regarde aussi le réseau de transport en commun actuellement, on regarde aussi le coût individuel de tout ça et la hausse tranquille, mais progressive pratiquement chaque année du coût d'une passe, d'un accès général. Est-ce que il y aurait aussi possibilité, en fait, est-ce qu'il faudrait, si on veut valoriser le transport en commun, limiter les coûts justement d'un abonnement à ce service-là?
Oui, les coûts, c'est une chose. Un laissez-passer général, ça peut être assez cher pour certaines personnes et ça peut être presque donné pour d'autres. Dans le sens où, quand on utilise le matin son express pour aller au complexe G, même si ça nous coûte autour de 70-75 $ par mois, je ne sais plus le prix exact, honnêtement, ça coûte cher, mais c'est encore moins cher que le 120 $ par mois à peu près du stationnement. Mais pour certaines personnes, c'est trop cher, 75 $ par mois. Donc, nous, on croit aussi que ça, c'est un enjeu. Le transport collectif doit devenir un outil d'équité. Donc, nous, on croit beaucoup à un principe qui est la tarification sociale. C'est pour les personnes qui ont un revenu plus faible ou qui ont des circonstances plus difficiles de bénéficier de prix moins élevés. C'est sûr que dans un monde idéal, la gratuité pourrait être intéressante, mais on entend souvent les discours dans la société qui parlent d'utilisateur-payeur et tout ça. Donc, c'est difficile à ce moment-là dans un contexte qui est plutôt tourné vers le désengagement des gouvernements depuis plusieurs années, etc., de dire on veut la gratuité. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est beaucoup plus des mesures sociales, un peu comme on le voit avec les laissez-passer étudiants ou les laissez-passer pour les aînés, qui sont basés sur d'autres critères que le salaire ou quoi que ce soit, mais on pourrait étendre ce principe-là, justement, pour permettre aux gens d'avoir accès aux emplois aussi, parce que avoir accès aux emplois, aux commerces, aux services, c'est très important pour la santé d'une population, la santé d'une ville. Donc, oui, le prix est un facteur important à jouer, mais nous, on n'est pas nécessairement en faveur d'une baisse généralisée de tous les tarifs, mais plutôt de conserver un équilibre avec l'inflation, de conserver une certaine assiette de revenus pour la société de transport et de cibler certaines clientèles à la limite. Parce que la qualité du service est beaucoup plus importante dans le choix du service que son prix souvent. Donc, si on offre un service 3 étoiles au même prix, les gens vont le prendre. Alors que si on offre le même service 5 $ ou 10 $ moins cher, ben les gens ne seront pas nécessairement tentés de le prendre à ce moment-là.
Et en terminant, Xavier, merci. Mettez... peut-être s'il y a des élus qui écoutent l'entrevue ce matin, quelle est la question à laquelle on aimerait qu'ils répondent au fil de la campagne?
C'est vraiment d'être prêt à s'engager pour le transport collectif, c'est-à-dire d'investir, de mettre en place des infrastructures, de mettre en place un plan à long terme cohérent. Pourquoi pas justement oser parler de réseau de tramway, oser parler de réduire la place de la voiture dans la ville et d'augmenter la part des transports collectifs. Donc, c'est vraiment de prendre un engagement fort pour ça.
Xavier Mercier, MT, chargé de dossier chez Accès Transport Viable. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'entrevue.
On poursuit ce regard autour de la question des transports et on va aller faire un saut à Bordeaux. Bordeaux qui est la ville sœur de Québec, Bordeaux dont on a largement entendu parler, notamment au fil de voyages. On pense à la mairesse André Boucher également. Et Bordeaux qui peut être peut-être un peu une source d'inspiration, peut-être en matière de transport. Et pour en discuter avec nous, ben quelqu'un qui était sur place il y a de ça quelques jours, qui est toujours à l'étranger, Dominique Talbot, bonjour.
Bon matin, Raymond.
Alors, si on jette un coup d'œil à ce qui se passe à Bordeaux, il faut se dire, si on remonte un peu dans l'histoire, qu'à peu près comme ça a été le cas à Québec, Bordeaux avait un tramway aussi au début du 20e siècle.
Absolument, tout comme Québec, Bordeaux avait son tramway. Et le tramway a disparu de l'agglomération bordelaise en 1958. Il faut dire que déjà à ce moment-là, dans les années 40, le tramway à Bordeaux, pardon, avait déjà plus de 200 km de rail et avait en moyenne 160 000 passagers par jour. Disparant en 1958 et déjà dans les années 70, dans la communauté urbaine de Bordeaux, on commence à réfléchir à trouver un nouveau moyen de transport entre la voiture et l'autobus, parce qu'on a des problèmes de congestion, de trafic. Alors on commence à réfléchir. Première idée qui vient au conseil municipal, c'est un métro, mais évidemment plusieurs obstacles vont se présenter, notamment Bordeaux qui est pas une ville qui est très peuplée. Évidemment, c'est une ville importante, environ 700 000 personnes. Premier point important, c'est qu'on va dire il n'y a pas suffisamment d'habitants à Bordeaux pour construire un métro. À cela, on ajoute un sous-sol qui n'était pas assez accueillant. Et de plus, on n'était pas en mesure de desservir le campus de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, Bordeaux qui accueille plus de 60 000 étudiants par année. Mmh. Alors, longtemps, on va réfléchir et là, on va se dire ça serait bien intéressant d'avoir un tramway à nouveau. Mais le maire de l'époque, Chaban Delmas, qui était maire pendant plus de deux décennies à Bordeaux, s'y opposait. Et finalement, Alain Juppé, que l'on connaît bien au Québec, Alain Juppé, qui est ancien premier ministre de France, qui était venu enseigner une année à Montréal, en fait, à l'ENAP, en 97, va faire voter un vaste plan de réaménagement urbain à Bordeaux, et ça va inclure la construction de tramway. Et dans ce plan de réaménagement urbain, on va notamment privilégier les piétons et les cyclistes.
Donc, il y a un peu, dans le fond, des parallèles qu'on peut dresser aussi, j'imagine, avec Québec, avec l'arrivée de Jean-Paul Lallier, par exemple.
Absolument. Je disais il y a à peine quelques instants de cela qu'on va voter un vaste plan de réaménagement urbain. Et on peut tout de suite penser au réaménagement que Jean-Paul Lallier, par exemple, a amorcé en basse-ville de Québec avec le quartier Saint-Roch, avec beaucoup de changements. On a un peu retapé l'image de Québec. C'est ce qui est arrivé également à Bordeaux. Bordeaux, depuis plusieurs décennies, c'était une ville qui commençait peut-être à s'endormir un peu. On avait besoin de projets, on avait besoin de nouvelles infrastructures. C'est ce qu'on a fait. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Québec, notamment c'est l'époque aussi à Québec où on a vu arriver les voies réservées, où le RTC a augmenté son offre de transport.
Et si, est-ce qu'on a quelques chiffres pour voir un peu peut-être l'impact des passages, par exemple, de tramway à Bordeaux versus le transport en commun à Québec?
Absolument, les chiffres sont très intéressants. Alors, depuis la construction du tramway, du nouveau tram, comme le disent les Bordelais, en commençant en 2000, en une première phase, 2000-2005, ça a coûté près de 1 milliard. Évidemment, c'est très cher. Deuxième phase qui est terminée en 2006 à 2008. 140 000 voyages par jour. Si on compare avec le RTC, le RTC a en moyenne 66 236 clients par jour. Le tramway à Bordeaux a 44 km de réseau. Et si on compare avec les voies réservées du RTC, les voies réservées, c'est 42 km. Donc, évidemment, le RTC avec l'autobus offre beaucoup plus de kilomètres que cela. Mais la différence, c'est un point qui est très important, c'est le prix. C'est beaucoup moins cher de se transporter à Bordeaux alors qu'on offre et un tramway et l'autobus que ce l'est à Québec avec seulement l'autobus. Et je m'explique. Un voyage de tramway à Bordeaux coûte 1,40 €, pardon, environ 2 $, alors qu'un voyage avec le RTC coûte 2,45 $. Une grande différence, c'est à se demander pourquoi le RTC n'a jamais mis cette façon de faire-là plus à l'avant. C'est que lorsqu'on achète un voyage à Bordeaux, soit pour l'autobus, soit pour le tramway, c'est bon pour une heure. C'est-à-dire que si on a plusieurs arrêts à faire sur une même ligne, on n'est pas toujours obligé de racheter un billet. On a le droit de se promener une heure. Chose évidemment qui n'est pas possible avec le RTC. Si, par exemple, on a deux, trois arrêts à faire sur une ligne de métrobus, on aura à acheter quelques billets.
Il faut que les arrêts soient dans le même sens, dans le fond, pour pouvoir profiter de une heure, mais on peut pas faire d'aller-retour dans l'heure qui nous est offerte.
Non, à Bordeaux, oui, on peut faire des allers-retours, on peut changer de ligne, chose malheureusement qui n'est pas possible avec le RTC. Et aussi l'abonnement mensuel pour le tramway à Bordeaux, 38,50 $, alors qu'il revient à environ 47-48 $. Toujours des prix pour le montant pour les adultes. Et à Québec, c'est 71 $ par mois pour le RTC.
Et Dominique Talbot, donc tu t'es rendu à Bordeaux, tu as vu un peu comment ça s'est passé, comment ça se fait, comment ça s'exprime dans la ville. J'imagine aussi qu'il y a eu des obstacles dans le développement de tout ça. Alors comment ça s'est passé et quel regard, qu'est-ce que ça donne pour la ville en matière d'urbanisme?
Et évidemment, au début, comme tu le disais, Raymond, il y a eu quelques obstacles, c'est-à-dire, évidemment, on a construit le tram sur des routes qui sont déjà existantes, donc on a enlevé des voies pour les automobilistes. Évidemment, pour beaucoup, c'était pas une solution qui était très satisfaisante, mais lorsque 10 ans plus tard, finalement, après 10 ans qu'on ait voté le plan de réaménagement, une fois que le tramway est bien en marche, les Bordelais sont largement satisfaits de ce compromis, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a eu aussi quelques obstacles au début, c'est-à-dire surtout des problèmes de construction. Il y a eu dans les premières années, il y avait des pannes qui étaient quand même assez fréquentes. Et pour déjà avoir habité Bordeaux pendant un an, je me rappelle, une journée d'hiver, il y avait tombé à peine 1,5 cm de neige. Le tram, en fait, avait été en panne pendant une journée et demie. Faut faire attention à ça. Il faut surtout retenir ces expériences-là. Pourquoi? Parce que, évidemment, à Québec, avec le climat, avec les montées qui sont nombreuses entre la basse ville et la haute ville, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération puisque évidemment ça peut largement faire augmenter les coûts de la construction d'un éventuel tramway. Hein.
Et peut-être en terminant, Dominique, un petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a un projet similaire à Bordeaux et ça a été évoqué aussi pour Québec, l'idée de relier Québec et Lévis par un téléphérique. Et semble-t-il que ça soulève quelques interrogations assez majeures à Bordeaux.
Absolument. En fait, à Bordeaux, c'est un pont levant. Pourquoi j'aime en parler? Parce que c'est un projet qu'on a entendu parler dans les journaux. Projet mené, entre autres, par Luc Hervé, ancien député conservateur, qui consiste à relier Québec et Lévis par un téléphérique. À Bordeaux, on a un projet qui est similaire, en fait, comme je viens tout juste de le mentionner, d'un pont levant. Mais qui s'en mêle tout d'un coup, ce n'est pas la municipalité, c'est l'UNESCO. L'UNESCO, Bordeaux est classée ville du patrimoine mondial, tout comme Québec. Et l'UNESCO intervient en disant faudrait faire attention pour l'aspect visuel de votre ville. Et si vous allez de l'avant avec le projet de Pont-Levant tel quel, il est fort possible que Bordeaux soit déclassé de la liste des villes du patrimoine mondial. La ville de Dresde, en Allemagne, a été déclassée d'ailleurs en juin, ça vient tout juste de se faire en juin 2009, alors avant de construire un téléphérique pouvant relier Québec et Lévis, faudra probablement réfléchir à cette possibilité-là, parce qu'il ne faut pas oublier que Québec, dans sa stratégie touristique, compte énormément cette classification des villes du patrimoine mondial pour attirer des gens de partout dans le monde. Donc, il faudra faire bien attention avec cela.
Et Dominique, il nous reste 30 secondes. J'aimerais savoir, en fait, ton expérience bordelaise. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens d'ici retiennent quand on va réfléchir en campagne électorale aux questions, justement, d'urbanisme, de transport en commun et peut-être de tramway?
À quoi on doit d'abord réfléchir, si je reviens au tramway, c'est que ça apporte énormément d'autonomie à une population. Parce que le tramway, évidemment, les passages sont fréquents, on peut se rendre assez loin. Il faut à Bordeaux, on a voté un projet pour l'avenir. On n'a pas voté un projet en disant à court terme, il y aura des conséquences, les gens sont pas habitués, on l'a déjà enlevé, ça doit pas revenir. On a décidé de voter un plan de réaménagement urbain pour l'avenir. Et je crois que les gens de Québec, le tramway est encore une idée qui circule largement dans la ville, devront penser un plan de transport efficace pour toute la communauté urbaine de Québec, non pas pour les cinq prochaines années à venir, mais pour les décennies à venir, pour avoir des moyens de transport qui sont écologiques, qui sont pratiques et qui sont efficaces.
Dominique Talbot, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raymond.
Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée à toi.
Ah ben voilà, quelques réflexions autour de ce qui se passe à Bordeaux. Question de poursuivre notre regard sur les différents dossiers. On poursuit ce matin ses regards autour du transport en route vers les élections municipales ici à Québec. Et ben prochain dossier qui est à l'ordre du jour, prochain regard qui est à l'ordre du jour, c'est un œil qu'on va porter attentivement sur la question de l'autopartage, notamment avec Communauto. Et pour en discuter avec nous, je suis en compagnie du directeur des communications relations publiques chez Communauto, Marco Viviani. Bonjour.
Bonjour.
Alors, où on en est justement, peut-être pour dresser un portrait de situation en ce qui concerne le développement de l'autopartage à Québec, au Québec?
Communauto, présentement, desserve environ 3200 abonnés à Québec, dans la ville de Québec et dans la région. Évidemment, on est à Lévis, maintenant on est à Dombergé, on est à un peu dans tous les territoires, et avec environ 180 véhicules, et une croissance de 15-20% par année en termes de nouveaux abonnés. Ce qui nous fait dire qu'on est, comment dire, on a passé la phase de démonstration que la formule fonctionne et qu'elle est durable, et on rentre dans la phase de montrer qu'on peut avoir un impact significatif sur la ville, sur la façon dont les gens ils se déplacent. Il faut rappeler que l'autopartage, l'objectif de l'autopartage et la mission de Communauto est celle de remplacer la possession de l'auto avec un service qui permette aux gens d'utiliser ces modes seulement en façon occasionnelle, sans être dépendant, et valorisant donc la complémentarité avec les transports en commun, les transports actifs. Le potentiel qu'on peut imaginer dans une ville de Québec, évidemment, est beaucoup plus grand. Un scénario très conservatif, quand même réalisé par TechSoult il y a quelques années, parle de 19 000 ménages. Alors, pour ce faire, évidemment, pour arriver arriver à desservir cette potentiel ou plus, évidemment, il faut que les administrations publiques soient directement concernées.
Et j'imagine que quand on parle de développer l'autopartage, c'est un développement qui se fait beaucoup plus sur le long terme. On peut pas voir des effets nécessairement en 1 an, 2 ans, 3 ans de mesures qui sont implantées, mais c'est sur 5, 6, 7, 10 ans.
Exactement. On travaille toujours un peu et en regardant le moyen terme. L'autopartage, c'est quand même un concept nouveau qui donc a besoin du temps, parce que les gens changent leur comportement, ils le comprennent, éventuellement ils l'adoptent, etc. On est certain qu'on est capable de combler un besoin des citoyens qui, en certaines mesures, maintenant s'achètent une voiture seulement quand ils ont besoin, seulement à l'occasion, au moins pour une partie de la population. Et donc notre service est là dans ce sens. Le taux de satisfaction qu'on a parmi nos abonnés et qu'on mesure chaque 2 ans, de l'ordre de 95% de personnes satisfaites, très satisfaites, ça nous dit qu'on est évidemment sur la bonne voie. Mais pour passer à la vitesse supérieure, dans nos moyens termes, évidemment, la proactivité des administrations publiques, c'est un des éléments essentiels.
Et justement, qu'est-ce que les administrations publiques pourraient faire pour favoriser, dans le fond, le contexte qui peut amener les citoyens à se dire, ben, plutôt que d'acheter une auto, je vais plutôt acheter un abonnement, dans le fond, à Communauto. Donc, comment on crée ce climat-là?
À notre avis, il y a grosso modo quatre grosses choses qui peuvent être, quatre lignes d'intervention qui peuvent être réalisées par une administration. La première est celle de nous aider à identifier, à trouver des sites pour élargir les réseaux. On décide de remplacer l'auto quand on sait qu'à proximité, il y a un véhicule en autopartage, ou une ou plus de véhicules en autopartage. Si on doit marcher 2 kilomètres pour arriver à prendre une voiture, on est probablement moins susceptible de vouloir renoncer à une auto personnelle. Donc, pour se rapprocher de nos abonnés dans des secteurs où souvent il n'y a pas de stationnement commercial qu'on peut louer, parce que on s'adresse surtout à des résidents, ben l'administration publique peut nous aider beaucoup en nous mettant en priorité dans les assignations de places dans les parcs municipaux, évidemment, quand c'est libère des places de donner une priorité aux citoyens qui utilisent l'autopartage et pour pouvoir élargir la disponibilité pour ces personnes. En même temps, en étudiant la possibilité de trouver d'autres sites auprès de particuliers, de privés, mais aussi sur la chaussée. Évidemment, là, il y a une autre possibilité. Le deuxième pilier d'intervention se rattache au premier, est celle d'éliminer les barrières et harmoniser les règlements pour face à la présence de l'autopartage. L'autopartage est un concept nouveau, comme a été pour les taxis, comme a été pour les transports en commun. Il y a des décennies, les règles ne sont pas nécessairement adaptées à cette réalité. Pour faire un exemple, normalement, les vignettes des résidents pour stationner devant chez soi sont attitrées aux personnes en fonction de la plaque du véhicule, évidemment pour éviter de la fraude, etc., etc. Mais nos abonnés, les abonnés de l'autopartage, ne possédant pas une auto, ne peuvent pas accéder à cette vignette. Et donc, théoriquement, dans les secteurs réglementés dans ce sens, ils ne peuvent pas stationner des gens chez eux s'ils ont besoin de faire de charger la voiture, etc., avant le voyage, etc.
Donc,
c'est un petit exemple, mais il y en a évidemment beaucoup. Le troisième pilier, c'est le fait de faire de l'information et promotion. Évidemment, si une ville intègre l'autopartage dans sa communication en expliquant aux gens c'est quoi les bienfaits de ce mode, évidemment, c'est un élément important. Et enfin, ben, on espère toujours qu'une attitude proactive d'une ville fasse qu'il y ait des incitatives qui reconnaissent qu'une personne qui adhère à l'autopartage renonce à avoir sa voiture, donc réduit l'impact dès l'utilisation de l'auto pour ceux qui le regardent, et que donc il peut y avoir des incitatifs tels que une sorte de reconnaissance des avantages qu'une ville peut procurer à ses citoyens.
Et j'imagine que quand on essaie aussi de vendre l'autopartage, il faut se dire qu'on fait face à un adversaire de taille. Le poids marketing, par exemple, des compagnies d'automobiles qui disent aux gens ben, acheter plutôt que partager, à la limite, c'est un compétiteur de taille.
Oui, c'est l'autopartage, le vrai compétiteur justement de l'autopartage n'est pas la location avec laquelle on a quand même des synergies, ni le transport en commun avec lesquels on a très bon partenariat, ou les vélos, etc. Mais c'est vraiment la vente automobile. Et comme on sait, c'est une des industries les plus puissantes au monde. Travailler pour convaincre les gens, pour les rassurer, pour bâtir un service qui a les performances pour être compétitif avec l'achat de voto est vraiment un défi de taille, et c'est pour ça qu'entre autres, le rôle d'une administration publique est décisif pour déployer au maximum le potentiel de l'autopartage.
Et dans un contexte politique où, veut pas, en fait, les mandats sont pour 4 ans, c'est souvent, on critique beaucoup les administrations en disant, vous pensez à court terme de manière un peu électoraliste. Est-ce que ça devient un peu plus difficile de convaincre, justement, les administrations municipales de penser sur 10 ans, sur 12 ans, plutôt que sur 3 ans, sur 4 ans?
Certainement, oui. Si on a un appui éventuellement politique, après cela se traduit difficilement quand l'horizon est plutôt long dans des actions concrètes au niveau de l'administration. Évidemment, il y a des résistances par rapport au changement. C'est tout à fait, comment dire, normal. Donc, il faut vraiment que l'attitude soit un peu visionnaire et qu'elle soit qu'il y ait un horizon moyen terme pour pouvoir imaginer qu'est-ce que ça pourrait être une ville dans laquelle 15-20% de la population, au lieu de posséder une voiture, utilise un service collectif comme peut être l'autopartage. Et alors, grâce à cette vision plus moyen-long terme, on peut alors avoir le poids auprès de l'administration pour changer les petits règlements, les petites façons de faire qui peuvent à la fin apporter à ce résultat.
Alors Marco Viviani, directeur des communications chez Communauto, merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Ah ben voilà, question donc de vision à long terme, et ce sera à voir justement si en campagne ben, il y aura des engagements sur des points comme ceux-là qui restent des points peut-être assez simples en fin de compte, des règlements, des appuis. Donc pour l'instant, on ne demande pas nécessairement la lune dans des dossiers comme ceux-là. Alors, un autre élément qu'on met dans notre besace en cette journée consacrée au transport. Raymond Poirier avec vous ce matin jusqu'à 9h, bien entendu. Et bon, jette justement un coup d'œil à la question du vélo à Québec, du réseau cyclable à Québec. Pour discuter avec nous de ce thème, deux intervenants. Premièrement, la présidente de l'organisme promo vélo, Jeanne Robin, bonjour.
Bonjour.
Et également Julien Normand, qui est cycliste, qui est membre de l'organisme Vélo Centrix, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'aime bien commencer en fait en dressant les constats, en dressant la table un peu face à la situation. Et si on regarde justement le réseau cyclable à Québec et dans la région de Québec, quelles seraient les forces, quelles seraient les faiblesses de ce réseau?
Pour commencer, c'est sûr qu'une grande force du réseau cyclable à Québec, c'est son réseau de loisirs. Je pense qu'il est reconnu et que on l'a encore bien développé ces dernières années. Et par contre, sa faiblesse, généralement, c'est le réseau utilitaire. Les gens qui se déplacent à vélo à Québec sont habitués à avoir des problèmes pour se déplacer, un manque de liens, une difficulté à partager la route avec les automobilistes. Enfin, en général, le réseau vraiment utilitaire est très déficient à Québec et dans la région.
Et si on regarde justement, présentement, on a l'impression, en fait, si on regarde des consultations qui sont en cours, bon, oui, il y a une réflexion sur la mobilité durable, mais en parallèle, tu sais, il y a cette consultation bleu-blanc-vert qui axe un peu sur le développement du vélo récréatif également. On a développé, la promenade Samuel de Champlain. Est-ce qu'on a l'impression que l'emphase dans le développement du réseau cyclable à venir est encore mise sur le récréatif ou qu'on commence à intégrer l'utilitaire?
On commence à intégrer l'utilitaire. Je dirais que dans le discours, aussi bien des fonctionnaires que des élus, on entend parler du vélo. Ils commencent à se dire que le vélo, c'est un moyen de transport et pas seulement une activité qu'on pratique quand on est touriste ou bien le dimanche. Mais bon, on est encore loin de la parole aux actes. Donc, il y a de l'espoir, mais il reste des choses à mettre en place vraiment.
Et si on voit un peu au niveau des besoins, est-ce qu'il y a un besoin réel aussi de développer le réseau cyclable à Québec? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ou qui l'utiliseraient?
OK. Actuellement, on évalue qu'il y a à peu près 1 ou 2% des déplacements qui sont faits à vélo. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des déplacements. Là, dans tous ces déplacements-là, c'est sûr que c'est la voiture qui se taille la part du lion. Par contre, les déplacements à vélo sont en augmentation assez vertigineuse dans les dernières années. Juste pour les déplacements domicile-travail, Statistique Canada a évalué que depuis 5 ans, le nombre de déplacements domicile-travail qui sont faits à vélo a augmenté d'environ 20%. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur vélo pour se déplacer tous les jours. Ça peut être pour étudier, pour aller travailler, pour aller magasiner même. Et puis, donc pour ces cyclistes-là, il y a un besoin. Et on sait aussi, c'est observé un petit peu partout, que plus le vélo est utilisé comme loisir, plus les gens ont tendance aussi à l'utiliser ensuite pour leur déplacement utilitaire parce qu'ils prennent l'habitude de le prendre et se disent finalement pourquoi pas mettre un petit peu plus de loisirs dans ma vie quotidienne en utilisant le vélo pour me déplacer. Mais pour ça, il faut des aménagements. Et puis je voudrais dire aussi que les cyclistes vont suivre les aménagements. Quand on crée une piste cyclable, on voit qu'elle est utilisée. Il y a actuellement beaucoup de gens qui disent « j'aimerais bien me déplacer à vélo, mais c'est beaucoup trop dangereux actuellement, je le ferai pas ». Donc pour ces cyclistes potentiels-là, oui, c'est très pertinent de développer un réseau cyclable.
Surtout pour monsieur, madame, tout le monde qui a pas envie de prendre trop de risques sur la rue, par exemple. C'est sûr que la piste cyclable favorise l'usage du vélo, c'est une évidence. Il n'y a pas juste les 18-35 ans qui sont assez braves et qui n'ont rien à perdre, qui veulent faire du vélo. Donc, il y a tout le monde qui veut faire du vélo. Puis, c'est sûr que des aménagements favorisent vraiment ça.
Et peut-être pour continuer un peu de dresser un état des lieux, quels seraient les avantages pour une ville d'inciter sa population à se déplacer un peu plus à vélo?
Comment inciter la...
Quels seraient les avantages? Pourquoi on se dit, OK, moi, je vais prendre mon vélo, moi, je vais changer ma mentalité, mes habitudes de faire?
Ben, c'est sûr que le vélo, c'est un mode de vie, mais vraiment, le vélo, il y a vraiment deux pans vraiment essentiels à saisir. C'est un moyen de transport, et puis en même temps, c'est un moyen de favoriser la santé. Donc, c'est vraiment... Puis, il n'y a pas vraiment d'autre chose qui fait ça dans la vie, étonnamment. Là. Je veux dire, il y a peut-être la marche, mais vraiment, qui est aussi efficace, c'est le vélo. Qui combat deux fléaux, si on peut dire. Donc, le transport avec ses effets négatifs, comme les gaz à effet de serre. Et puis, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc,
la
sédentarité. Donc, ça combat la sédentarité, c'est vraiment... Puis, on est une cliente des personnes vieillissantes à Québec aussi. Et puis, c'est sûr que pour conserver sa mobilité, ben il faut continuer à bouger. Donc,
Le vélo, c'est un peu, on pourrait dire, c'est le symbole du développement durable. C'est pas cher, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, c'est accessible à tous, donc il n'y a pas d'inégalité économique ou sociale. Et puis, je pense que ça peut donner aussi une image très dynamique à la ville. Il y a beaucoup de villes qui misent sur le vélo pour se donner une image positive, dynamique, volontaire. Puis finalement, ça fait jeune, ça fait branché. C'est vraiment, c'est bon, je sais que les gens qui font du vélo le font pas nécessairement pour ça, ils font avant tout pour leur côté pratique, mais pour une ville, c'est vraiment gagnant. Regardez le nombre de sites internet d'associations touristiques sur lesquels il y a un vélo en première page, c'est assez fascinant, donc c'est sûr que c'est gagnant pour tout l'ensemble de la communauté.
Et quand on parle de développement aussi, peut-être pour terminer sur ces généralités-là, mais quand on parle de développement axé sur le vélo, il y a des villes qui l'ont fait, c'est quelque chose qui est possible, c'est pas du domaine de l'utopie.
Oh, il y a beaucoup de villes qui ont décidé de développer le vélo, oui. Puis ce qui est bien avec le vélo, c'est qu'avec des investissements quand même qui sont pas énormes comparés à d'autres investissements en infrastructure, on arrive à des résultats très satisfaisants. En fait, c'est plus une question de volonté politique et de bien penser le vélo. Avec quelques millions, on peut avoir des résultats, alors que pour d'autres activités, il s'agit de dizaines, voire de centaines de millions. Donc, ça vaut la peine. Et puis, pour des villes qu'on choisit de mettre en place le vélo, on peut citer évidemment Amsterdam. Je pense que les Pays-Bas, c'est vraiment la patrie rêvée pour les cyclistes. Plus près de nous, en Amérique du Nord, il y a Portland qui a fait des choses intéressantes, Vancouver au Canada, et puis d'autres petites villes aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de villes. Montréal est reconnue comme une ville du vélo assez intéressante. C'est sûr que les cyclistes montréalais vont me dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire quand on se compare, on se console. Mais on peut faire quelque chose, ça fonctionne.
Et peut-être avant de se lancer en pause publicitaire, si on regarde Québec, les défis auxquels le développement cyclable fait face, on parlait tout à l'heure de transport en commun, on se disait le principal défi, c'est un peu la quantité d'autoroutes et la manière dont l'urbanisme de la ville de Québec a été pensé. Est-ce que c'est un obstacle aussi au développement d'un réseau cyclable, la manière dont on a pensé Québec, dans le fond, il y a une cinquantaine, une trentaine, une vingtaine d'années?
C'est certain que si on avait pensé le réseau cyclable en même temps qu'on construisait le réseau routier et autoroutier, ça aurait coûté beaucoup moins cher que ça va coûter maintenant. Il y a du rattrapage à faire. Il y a beaucoup de rattrapage à faire à Québec. C'est sûr que les barrières autoroutières, c'est un frein important à la pratique du vélo. Ça fait des détours incroyables. La question, c'est est-ce qu'on continue dans le même sens qu'on a fait durant les dernières décennies, ou bien est-ce qu'on choisit de changer de cap et puis justement de faire plus de place au vélo, au transport en commun, finalement au mode de transport plus durable que la voiture. Je pense que la question, là, tout le monde se la pose et on a juste encore un peu peur d'y répondre, mais la réponse est évidente, c'est sûr qu'il faut changer de cap.
Et si on regarde un peu l'axe nord-sud, par exemple, est-ce que on a des idées, des approches qui pourraient être prises en compte dans l'éventuel développement d'un réseau cyclable entre la ville et les banlieues, peut-être de première couronne, peut-être même de deuxième couronne à la limite?
Déjà, c'est sûr que je pense que c'est à la fois les banlieues de première couronne et de deuxième couronne qu'il faut relier. On disait avant la pause que vraiment le vélo, c'est un mode de transport efficace pour plusieurs kilomètres de déplacement en ville. Donc je pense que jusqu'à 10-15 kilomètres, ça reste valable. J'en connais des gens qui font ça tous les jours. Pour ce qui est d'aménager un réseau efficace, Actuellement, il y a beaucoup de barrières. Il y a les barrières autoroutières, il y a aussi les barrières physiques. Le passage de la rivière Saint-Charles, c'est un problème dans bien des cas pour les cyclistes parce qu'on a prévu des ponts pour les voitures mais qui ne sont pas nécessairement aménagés pour les cyclistes. Il y a aussi évidemment la falaise entre la haute ville et la basse ville qu'il s'agit de traverser. Donc là-dessus, il y a plusieurs aménagements qu'on peut prévoir. Et ce qui est important quand on fait un réseau cyclable, c'est toujours de prévoir l'aménagement qui est proportionné au débit routier et au débit cycliste. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une piste cyclable quand on la crée sur le bord d'un boulevard sur lequel il y a un achalandage routier important, alors qu'on peut y aller avec une bande cyclable quand il s'agit d'une rue qui est moins achalandée, sur laquelle la vitesse est moins rapide aussi. Et puis il y a aussi la question des intersections à traiter.
Oui, il faut savoir que le principe du réseau routier est un peu le même pour les pistes cyclables. C'est-à-dire qu'en tant que cycliste ou automobiliste, on a les mêmes priorités, c'est qu'on veut se rendre le plus rapidement, le plus facilement possible du point A au point B. Quand on est un cycliste utilitaire, c'est sûr qu'on exclut un peu le récréatif là-dedans. Et puis, les stops, c'est sûr qu'on les cyclistes, moins il y en a, mieux c'est. Donc, il faut prévoir ça. C'est sûr que si on favorise des pistes cyclables qui seraient alternatives ou qui éviterait des voies principales de circulation, c'est se tirer dans le pied parce que les cyclistes, de toute façon, vont prendre la voie la plus rapide. Donc, il faut vraiment être conscient de ça quand on fait le développement.
Oui, donc si on a l'idée, par exemple, on se dit « Ah, il y a déjà un peu des pistes vers Beauport parce qu'il y a cette piste qui longe un peu, qui longe le fleuve. Il y a la piste de la rivière Saint-Charles. Donc, techniquement, Duberger peut se rendre au centre-ville, mais c'est pas nécessairement des bonnes pistes de vélo utilitaires. »
En effet.
Effectivement, les pistes de loisirs, elles sont très agréables et puis on peut les utiliser pour ses déplacements utilitaires. Mais par contre, il faut s'assurer de faire des pistes qui rejoignent les endroits où les cyclistes veulent se rendre. C'est-à-dire que normalement, le réseau cyclable, il devrait passer sur les rues commerciales, il devrait desservir directement l'université, l'ensemble des écoles secondaires, primaires, les points sur lesquels il y a beaucoup d'emplois, tous les services gouvernementaux, enfin finalement les endroits où on veut aller, quoi. C'est desservir les parcs, c'est pas suffisant pour dire qu'on fait un réseau utilitaire. Là, on reste vraiment dans le loisir.
Et en même temps, j'imagine, quand on développe une piste en ce sens-là, il faut trouver, le chemin le plus direct. Donc, si on se dit, on va passer par des rues secondaires, on va faire des petits détours qui vont rajouter 1 km, 0.5 km, déjà, c'est suffisant pour servir d'anti-incitatif, à la limite, de faire dire aussi, moi, je vais passer tout droit, je passerai pas par ce détour-là.
Oui, puis je pense que la ville le sait maintenant, que il s'agit de prévoir les itinéraires les plus directs possibles. Puis c'est assez logique, hein. Le vélo, c'est quand même un mode de transport qui présente pas d'impact néfaste pour les résidents, pour les piétons. Enfin, c'est quand même un mode qui fait pas de bruit, qui est pas polluant, donc on peut le faire passer n'importe où. La raison pour laquelle on fait des détours en voiture, c'est dans beaucoup de villes, pour dissuader l'utilisation de la voiture, tous les sens uniques, c'est pour ça que ça a été fait beaucoup, pour entraîner des détours en automobile et donc inciter les gens à stationner plus tôt et ensuite à se déplacer à pied. Mais c'est pas du tout l'objectif qu'on poursuit avec le vélo. Donc il faut le favoriser, donc il faut que ce soit le plus facile possible de se déplacer à vélo.
Et ça, j'imagine, c'est assez... quand on regarde l'exemple, par exemple, de l'axe Est-Ouest, où présentement, la piste cyclable, il y a beaucoup de détours, alors que les gens, dans le fond, prennent soit René Lévesque, soit le chemin Sainte-Foy, parce que c'est des trajets directs, même si ça devient des trajets qui sont quand même, pour l'avoir essayé, relativement dangereux.
Oui, ou en tout cas pas très pratique, puis c'est un peu dissuasif, il faut avoir une certaine assurance pour se risquer sur les boulevards actuellement à vélo. Sur l'axe Est-Ouest, je pense que c'est notre maire Régis Labeaume qui a dit, je pense que ça fait maintenant 2 ans qu'il a dit ça, mais il a dit... Il faut qu'à Québec, il y ait un lien cyclable entre Québec et Sainte-Foy. C'est risible qu'on n'en ait pas actuellement. C'est vraiment un manque. On a besoin de ça. On peut pas être une grande ville si on n'a pas un lien cyclable dans cet axe majeur-là. Je pense que c'est une bonne analyse. C'est effectivement nécessaire de faire quelque chose là-dessus. Et actuellement... effectivement, l'aménagement cyclable qui est prévu comporte de nombreux détours, donc il est assez peu utilisé par les cyclistes qui choisissent eux-mêmes leur propre itinéraire. C'est sûr que si on prévoit un axe cyclable plus efficace, il va être beaucoup plus utilisé, puis je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde.
Et justement, quel axe on devrait préconiser?
Actuellement, l'axe étudié, c'est René Lévesque, et c'est un bon axe, c'est intéressant. On pourrait penser également au chemin Sainte-Foy, qui est beaucoup utilisé par les cyclistes, mais qui présente plus de problèmes techniques à gérer, je dirais, parce que c'est plus étroit, que bon, c'est directement en lien avec la basse ville, donc il y a beaucoup de conflits de circulation à cet endroit-là, mais reste que ce serait un axe intéressant.
Ah, en effet, il y a beaucoup d'avantages aussi au chemin Sainte-Foy, entre autres, il y a les cégeps, il n'y a pas juste l'université, par exemple, sur René Lévesque, l'avantage, c'est d'aller directement sur l'université, mais le chemin Sainte-Foy, il y a deux cégeps, puis le CLAP, là, pour ne pas le nommer. Et puis, donc, c'est vraiment un axe naturel, qu'on pourrait dire. Donc, il faut y penser.
À la limite, ça serait dans le monde idéal, ça serait de développer les deux, mais donc, s'il faut choisir, ça sera un peu de voir selon les possibilités et selon les besoins des cyclistes aussi, parce que j'imagine que vous aviez évalué aussi la quantité de gens qui circulent dans cet axe-là dans le passé. Je pense que c'était Promo Vélo qui a fait cette évaluation-là.
On a fait un comptage l'année dernière qui a compté 1600 cyclistes à l'heure de pointe, donc une évaluation d'à peu près 5000 cyclistes par jour sur cet axe-là. Donc, c'était sur l'ensemble des... Enfin, sur l'axe, donc à la fois sur René Lévesque, sur Chemin Sainte-Foy, sur Père Marquette, enfin, toutes les rues qui font est-ouest dans ce coin-là, en Haute-Ville. Bien sûr, on pense que ça peut beaucoup augmenter. Et surtout, ce qu'on voulait faire avec ce comptage-là, c'était montrer à quel point c'était nécessaire. Et on a aussi regardé où habitaient les gens qui utilisaient cet axe-là. Et on a vu que c'était des gens qui résident un petit peu partout dans toute la ville de Québec. Donc, il s'agit d'un lien qui n'est pas seulement un lien de quartier, quoi. C'est vraiment un lien enfin, d'utilité régionale, on peut dire.
Et face à ça aussi, il y a une question, on parlait de volonté politique, parce qu'il y a aussi certaines réactions. Bon, on a vu des marchands qui disaient, mais regardez, si on construit une piste cyclable, on réduit les espaces de stationnement, ça va nous engendrer des problèmes. Alors, comment aussi, politiquement, on demanderait aux élus de composer avec ces réalités-là, avec certaines gens qui sont peut-être intéressés à avoir des pistes cyclables, mais pas nécessairement aux dépens d'espaces de stationnement, aux dépens d'espaces pour l'auto également?
Ok, on n'est pas pour réduire. C'est sûr que le commerce c'est quelque chose d'important. C'est important d'avoir des zones commerciales performantes en centre-ville, d'avoir des commerces de quartier. C'est beaucoup plus intéressant à mon avis que le développement de centres commerciaux en périphérie. Par contre, on se rend compte dans beaucoup de villes qui ont choisi de faire plus de place au transport collectif, au vélo, à la marche, que justement c'est souvent associé à une plus grande vitalité commerciale du quartier, tout simplement parce que ça permet le passage d'un plus grand nombre de personnes. En fait, c'est assez limité le nombre de personnes qui peuvent passer en voiture dans un quartier parce que ça occupe beaucoup d'espace une voiture et qu'il y a très peu de personnes dans une voiture. Donc quand on met tous les gens qui sont en voiture, en transport en commun, à vélo ou à pied, ben, il peut en passer beaucoup plus dans une journée. Donc souvent, eh ben, ça fait plus de clients. Donc ça a un effet assez positif sur la vitalité commerciale des secteurs traversés. Pour ce qui est de composer, de savoir qui va subir le contre-coup du développement du réseau cyclable, il faut quand même pas se cacher que depuis, mettons, 20 ans, c'est sur les cyclistes que pèse justement l'impact du manque de développement du réseau cyclable. Donc actuellement, ceux qui font des efforts, ceux à qui on demande de serrer la ceinture, c'est les cyclistes. Donc je pense qu'il s'agit de faire un rééquilibrage, et ce qu'on demande, c'est pas la lune, c'est juste quelque chose qui aurait dû exister, et c'est du rattrapage en fait.
Ouais, et peut-être aussi pour ajouter que les rues c'est fait pour circuler aussi là, c'est à la base c'est pas fait pour se stationner là, donc
Et justement, je me demandais, en fait, comment ça se passe présentement? Donc, vous êtes cycliste tous les deux, à l'heure de pointe ou dans certains déplacements. Comment se passent les relations aussi peut-être un peu avec les automobiles? Vous dites justement, c'est un peu le vélo qui serre la ceinture, qui essaie de se faufiler. Alors, comment on vit ça en tant que cycliste?
Ben moi, je peux dire que je vis ça assez bien, oui. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, des événements malencontreux ou des personnes bizarres. Et puis, je dois dire que ça va dans les deux sens aussi. Il y a des cyclistes qui sont mal élevés, ben il y a des automobilistes qui sont mal élevés. Et puis, je vous dirais que c'est sûr que l'attitude du cycliste, on est exposé aux éléments. Donc, on est plus grounded, si je peux dire. Tandis qu'un automobiliste, ben il est enfermé dans son auto. Donc, il est comme il est dans un autre monde. Monde, hein. Donc, je dois dire que c'est deux mondes, et puis il faut essayer de se partager le même espace. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre ça de manière positive et essayer de garder un contact visuel aussi. Si vous êtes cycliste ou automobiliste, ben, regardez-vous, et puis on va bien s'entendre.
D'où l'intérêt, justement, peut-être de se dire, ben voici, ça c'est la voie de l'automobile, ça c'est la voie du vélo, plutôt que de dire, ben essayez de vous démêler ensemble en connaissant pas nécessairement toujours très bien comment la vie marche, quelles sont les priorités, quel est le code de la route pour vélo et cycliste, etc.
Oui, mais c'est important de pas séparer complètement les circulations, parce qu'on se rend compte que quand on sépare totalement la circulation automobile, cycliste, piéton, eh ben on multiplie les accidents au point de contact, et les points de contact, ils sont très nombreux, c'est toutes les intersections, c'est tous les moments où il faut changer de voie. Donc il faut faire attention à pas permettre aux gens d'oublier qu'il y a d'autres usagers de la route. Puis ça vaut pour les automobilistes, ça vaut aussi pour les piétons et pour les cyclistes. On recommande souvent aux cyclistes de faire preuve de respect vis-à-vis des piétons, notamment en s'assurant de ne pas les mettre en danger et d'assurer finalement plus de civilité pour tout le monde. Je pense que ça améliore la sécurité, puis ça améliore la qualité de vie.
On a parlé d'axe nord-sud, on a parlé d'axe est-ouest. Maintenant, en fait, si on prolonge un peu l'axe nord-sud aussi, que faire avec la question des liens inter-rives? Parce que de ce que j'ai vu au fil de l'actualité, présentement, bon, il y a le traversier, certes, mais il y a aussi le pont de Québec. Et il y a quelques questions qui sont soulevées face, dans le fond, aux possibilités présentement qu'on a de se rendre de Lévis à Québec, de Charny à Québec à vélo. Alors, comment on pourrait bonifier un peu ça et quels sont un peu les problèmes aussi face à cet axe-là?
Ben, pour le moment, sur le pont de Québec, officiellement, on peut pas rouler à vélo. On a le droit de l'emprunter à vélo, mais il faut mettre pied à terre parce que la largeur, je pense que c'est à peu près 1 mètre. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour un vélo de circuler. Puis alors, pour 2 cyclistes de se croiser, ça devient carrément dangereux. Il faut qu'il y en ait un qui saute par-dessus l'autre. C'est pas pratique. Donc, c'est sûr qu'il va falloir penser à un aménagement qui permette aux cyclistes d'utiliser ce lien-là. D'autant plus que, ben, on l'a dit au début de l'émission, il y a de plus en plus de vélos loisirs. Et les deux régions, Chaudière-Appalaches et Québec, veulent profiter au maximum du tourisme de loisirs. Là, on fait dur, je pense, avec le pont de Québec.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait soit réaménager le pont éventuellement, ou soit carrément ajouter un troisième pont pour les vélos? Ou si on se lance quelques idées là-dessus, comment on pourrait bonifier cet accès-là?
Oh, il faudrait évaluer les coûts, puis je pense que là, faut faire appel à des ingénieurs. Là, je me lancerai pas dans des propositions hasardeuses, mais il y a déjà pas mal de solutions qui ont été proposées. Le fait d'aménager une passerelle sur le pont actuel pour élargir donc le passage pour les vélos. Bon, il reste toujours la possibilité de réduire le nombre de voies pour les voitures pour en réserver une aux vélos en faisant une piste cyclable à double sens. Finalement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense qu'il s'agit de décider que on va faire du pont de Québec ou d'un pont à côté un aménagement cyclable. Puis là, on va se pencher sur les solutions possibles.
Et une fois qu'on a développé dans le fond le réseau lui-même, j'imagine que l'autre question aussi sur lequel même administrativement la ville peut avoir un impact, face auquel aussi les entreprises peuvent avoir un impact, c'est les équipements dans le fond à destination. Et sans ça, j'imagine que bon, on peut manquer aussi un peu de motivation à se dire ben je vais aller travailler en vélo.
C'est effectivement un frein quand même assez important à l'utilisation du vélo, le fait que ce soit pas facile de trouver un stationnement à destination. Et puis, pas évident non plus pour tout le monde de stationner son vélo chez soi. Dans les maisons unifamiliales, souvent, c'est possible. Mais bon, encore faut-il l'avoir prévu, c'est-à-dire prévoir soit un petit coin du garage où on va garder la place pour le vélo, ou bien tout simplement un cabanon facilement accessible où on peut ranger son vélo. Tout le monde n'y pense pas. Puis quand on n'y a pas pensé au début, c'est beaucoup plus difficile de l'aménager après. Et puis, quand il s'agit des blocs multi-logements, là, souvent, monter son vélo au 3e étage, bon, disons qu'il faut être en bonne forme, hein. On fait son exercice du matin et du soir. Donc, je pense que la ville pourrait faire beaucoup en incitant, d'abord en diffusant de l'information là-dessus sur comment on peut aménager des stationnements à vélo quand même efficaces, pratiques, qui coûtent pas très cher, des supports à vélo un petit peu partout. Et puis, il faudrait qu'il y ait des incitatifs financiers à la fois pour les employeurs, pour les institutions, pour les écoles. Il y a quand même pas mal de choses qui se font dans d'autres villes sur lesquelles on pourrait prendre exemple. Je sais que la commission scolaire de Montréal a décidé de doter toutes ses écoles de stationnement à vélo. C'est intéressant, c'est une bonne chose. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal d'enfants qui se rendaient à l'école à vélo, que c'était bien pour eux, ça correspond à ce qu'on a envie de transmettre aux jeunes. Et puis, bon, il paraît qu'ils sont plus en forme et plus attentifs quand ils arrivent en classe.
Et en même temps, en parallèle, dans le cadre d'événements aussi, j'imagine qu'il s'agit de mettre des infrastructures à disponibilité. Et à Vélocentrix, Julien Normand, vous aviez fait l'expérience pendant le festival d'été, vous avez fait un stationnement à vélo surveillé, donc pour éviter aussi la question d'insécurité, devais-je me le faire voler dans ce stationnement-là?
En effet. Et puis, malgré le mauvais temps au festival d'été, et malgré la première année de ce stationnement à vélo sécuritaire, ben, on a eu plus de 150 personnes qui sont venues. Donc, il y a une demande, c'est évident.
Et dans le fond, il s'agirait d'informer un peu plus les gens sur la possibilité, j'imagine, de...
Ben, c'est probablement que ça serait vraiment une question, entre autres en ville, de faire un stationnement sécuritaire. Je sais pas, il y a déjà une société, là, je sais plus comment ça s'appelle, CEPAC, je pense, qui fait les parkings, qui gère les stationnements automobiles pour les fonctionnaires, je pense. Et puis, donc, suffirait qu'ils installent des supports à vélo là-dedans et puis avec un système de billets comme pour aller au vestiaire dans un restaurant ou dans un bar.
Oui, pour pouvoir prendre une petite douche, changer, etc., ouais. Dans le fond, à l'arrivée au boulot.
Oui, aussi, c'est sûr, ça, c'est un autre point. Là. Mais là, je te parlais un peu de la gestion, oui. de la sécurité, de savoir que si je me stationne en vélo, ben, j'ai un billet qui dit que c'est bien mon vélo que je rentre. Donc, c'est supervisé, surveillé. Mais c'est vrai que c'est un fait aussi que rendu à destination, ben, dépendamment de la destination, justement, si on a plus d'une demi-heure à vélo, ben, on risque aussi que si on monte la côte d'Abraham ou la pente douce, ben, on risque d'être en soirée. Et puis, des fois, ben, c'est agréable de prendre une douche, on se sent revigoré, puis on se sent frais pour la journée, donc ça va mieux pour travailler, c'est sûr. Mais encore là, il y a un autre truc, on l'a parlé vite là, tantôt, dans les aménagements nord-sud, le lien, il faudrait un lien mécanique à Québec, c'est sûr qu'il y a un obstacle géographique, c'est la basse ville et la haute ville, donc si on crée un lien, ou plus qu'un, idéalement là, quelques-uns, et puis ça c'est une chose que la ville peut faire, en tout cas en ce moment on pourrait lancer des études là-dessus, puis se décider. Grosso modo, un lien mécanique, ça peut être, je sais que le maire Labeaume en a parlé récemment, puis il faisait surtout allusion aux touristes, c'est sûr que les touristes l'utiliseraient, mais ça serait vraiment utilitaire pour tout le monde, et puis grosso modo ça peut être un genre d'ascenseur, là. C'est pas suffisant de vérifier la faisabilité de ça. Puis ça existe déjà ailleurs aussi.
Alors, en fait, beaucoup de dossiers, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'enjeux face à l'utilisation du vélo à Québec. Et en conclusion, en fait, Jeanne Robin, Julien Normand, qu'est-ce qu'on devrait garder en tête en route vers les élections municipales? Qu'est-ce que devraient aussi garder en tête les élus, justement, ou les futurs élus lorsqu'ils vont discuter de la situation du transport, donc face au vélo?
Ben moi, si je peux te dire, j'aimerais que les personnes gardent en tête d'écrire ou de parler à leurs conseillers municipaux et puis de faire en sorte qu'ils sachent qu'ils sont cyclistes et que la cause est vraiment leur tient à cœur. Et puis c'est sûr que si tout le monde faisait ça, tous les cyclistes à Québec, ben il y en a beaucoup de cyclistes. Donc ça ramènerait vraiment ce sujet-là dans l'actualité. Et puis si on serait... Ça forcerait un peu les conseillers à se commettre, à prendre des positions. Donc, ça serait vraiment intéressant que les personnes prennent le temps de rentrer en contact avec leurs conseillers municipaux ou le maire.
Oui, et puis que les conseillers municipaux se mettent eux-mêmes au vélo. Il y en a qui le font déjà, puis on voit que leur discours est pas le même que ceux qui n'en font pas. Et la même chose pour les fonctionnaires qui s'occupent d'aménager le réseau cyclable. Et puis on est prêts, nous, à contribuer, à collaborer au travail qu'il y a à faire pour améliorer le vélo à Québec.
Jeanne Robin, donc, de Promo Vélo. Julien Normand, de Vélocentrix. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Et ben nous, c'est ce qui conclut cette troisième journée en route vers les élections municipales, donc qui était sous le thème du transport.